Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School, qui publie... Il est publié d'ailleurs, il est sorti.
Il est sorti hier.
Hier. Travailleurs mais pauvres, inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse. C'est publié chez Debock Supérieur. Habituellement, je disais Debock, mais Debock Supérieur, je...
Debock même.
Debock, on dit. Debock. Oh là là. Catastrophe. Lionel Fontanier, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Et Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, avec à la une du numéro qui sort aujourd'hui, IA, qui perd, qui gagne. Vous avez regardé les métiers, vous avez regardé les entreprises pour essayer de faire le tri. On évoquait le bonus écolo, on évoquait le leasing social. Est arrivée la pause, je vous ai coupé la parole, Lionel Fontanier. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ?
Donc, si je reprends le point où nous nous sommes arrêtés, donc en 6 semaines,
oui.
On a vendu à cette catégorie de ménages autant de voitures qu'en 6 mois, une autre année. Donc, c'est un succès formidable.
Oui.
Mais en même temps, il y a quand même des contraintes budgétaires qui existent. On pourra en reparler peut-être à d'autres moments dans cette émission. Donc, on avait prévu de mettre 1,5 milliard d'euros sur le verdissement du parc automobile. Et donc, vous voyez bien qu'avec 13 000 euros de bonus fois 50 000 véhicules...
On 13 000 a des... par véhicule.
Par véhicule.
Les 7 000 de bonus écolo plus 6 000 de prix.
C'est ça. Donc, multiplié par 50 000 véhicules, on a déjà bien mordu sur le budget d'1,5 milliard. Et comme il reste d'autres actions, notamment les 7 000 qui restent pour les autres ménages, etc., donc on est dans une situation où c'était utile d'arrêter, ou nécessaire d'arrêter en tout cas pour cette année. Alors si on regarde ce que ça représente, et est-ce que la mesure est efficace ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc les ménages dont on parle sont des ménages modestes, c'est des ménages qui roulent avec des véhicules âgés, avec des véhicules qui polluent beaucoup, et donc on a l'impression que ces ménages-là polluent beaucoup. Mais en réalité, comme ce sont des ménages modestes, en moyenne, ces ménages parcourent moins de kilomètres dans une année que le ménage moyen français. Et donc, ça veut dire que ces gens-là parcourent en moyenne 15 000 kilomètres par an, avec les voitures âgées qui émettent du CO2. Et donc, si on fait un petit calcul que j'ai fait avant de venir ce matin, donc ça veut dire que chaque année, chaque ménage économise 2 tonnes de CO2 sur les émissions de sa voiture, en passant d'une voiture à combustion ancienne à une voiture électrique. 2 tonnes. Et les ménages vont garder 10 ans cette voiture électrique. Probablement. Même si c'est un leasing, etc. On peut faire le calcul comme ça. Ça veut dire que par ménage qui rachète une voiture, on économise 2 fois 10, c'est-à-dire 20 tonnes de CO2. Et donc 20 tonnes de CO2, ça coûte 13 000 euros. Donc on peut faire rapidement le calcul quel est le coût d'effacer une tonne de CO2, comme disent les économistes. Les économistes font toujours des calculs horribles. C'est pour ça que, à part cette émission, on a du mal à les inviter, parce qu'ils disent toujours des choses qui sont dépassées. Donc voilà, on a effacé 20 tonnes avec 13 000 euros. Donc est-ce que c'est efficace ? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, une tonne de CO2, ça s'échange à 60 euros à peu près, hein, sur le marché concerné au niveau européen. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus cher que le coût de la tonne de CO2. Et si on essaye de regarder ce que les économistes appellent le coût social d'une tonne de CO2 émise, c'est autour de 60-80. Donc on est de toute façon très au-delà. Donc est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise mesure ? Eh bien non. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, c'est une mesure de pouvoir d'achat en direction des ménages modestes avant d'être une mesure environnementale. Parce que ça va protéger pendant 10 ans les ménages modestes de toute augmentation du prix des carburants, des taxes sur les carburants, de la taxe carbone sur le carburant, etc. Donc c'est une excellente mesure sociale, mais du point de vue environnemental, ça fait très cher la tonne de carbone.
Alors, votre démonstration, ça prouve c'est bien, ça prouve beau. Bien. Non, fantastique.
On aurait pu avoir la même sur... J'ai souvent entendu les économistes parler du coût des emplois aidés, vous savez, ça oui. fait penser non, à ça, où quand on fait l'addition au final, on se dit, waouh, on aurait peut-être pu mettre cet argent ailleurs, de façon plus... Mais le raisonnement est brillant, et notamment la dernière partie, sur moi, je n'avais jamais réfléchi à ça, sur qu'en fait, c'est une mesure de pouvoir d'achat aussi, il y a un effet induit qui permet, enfin, on va voir, hein, mais normalement, qui permet de vous immuniser contre la hausse des carburants fossiles.
Oui, mais pour les emplois aidés, on peut faire le même raisonnement.
Oui, c'est ça, c'est sûr, on l'a fait mille
évidemment,
fois.
Évidemment, ça coûte très cher, mais ça évite aussi que des gens, parfois, s'éloignent durablement du marché du travail. Et quand on s'éloigne durablement du marché du travail, le risque, c'est qu'on s'en éloigne définitivement.
C'est la question qu'on se pose actuellement avec l'apprentissage. Exactement. Est-ce qu'on dépense trop dans un dispositif qui cartonne à côté de ça?
Juste, moi j'avais juste une petite remarque.
Allez-y.
Dire que c'est un phénomène, il y a d'autres pays qui sont en train de revoir. L'Allemagne a carrément coupé tous ses bonus. Bon, alors il se trouve que les voitures allemandes n'étaient pas très, très en pointe sur l'électrique, en tout cas sur l'entrée et le milieu de gamme. Les États-Unis ont stoppé aussi, donc on était un peu une anomalie d'y aller à fond, et effectivement, je pense qu'il y a eu un petit problème. Ils auraient peut-être dû utiliser de l'IA, je sais pas, pour voir quelle allait être la demande face à cette offre de prime, parce qu'ils ont été complètement débordés. Il y a quelqu'un qui s'est planté un peu dans ses calculs quelque part, parce que c'est pas très bon de lancer un dispositif et de l'arrêter en loose day au bout de quelques mois, parce qu'on est en train de cramer la caisse, comme dirait l'autre.
Non, donc, ça montre tout simplement que les ménages et les consommateurs sont parfaitement rationnels.
J'en suis persuadé.
Ils avaient parfaitement anticipé qu'avec 1,5 milliard, ça ne le ferait pas. Ouais. Et donc, ils ont dit qu'il faut se dépêcher déposer un dossier pour être dans les premiers. Et donc, les ménages et la rationalité des ménages a dépassé celle des politiques économiques. C'est un truc tout à fait
clair. Ouais, l'une des raisons de la rationalité aussi, c'est que les ménages pouvaient craindre que les constructeurs n'aient pas assez de voitures de ce type-là.
Alors, il y a quand même un truc marrant sur le dispositif, c'est qu'on l'a attendu, c'était une promesse présidentielle. On l'a attendu pendant des mois et des mois et des mois.
Il n'y avait pas l'offre.
Ce qui est amusant, c'est que tu as des constructeurs qui ont sorti des offres à 100 euros avant même le dispositif. Alors, il n'y avait pas du tout de critères de pouvoir d'achat, etc. Mais le marché est capable aussi, il n'a peut-être pas tout le temps besoin de l'État, le marché est capable d'inventer des dispositifs. L'intérêt des constructeurs, c'est de vendre des voitures électriques, puisqu'ils ont fait des investissements colossaux là-dedans. Donc le marché est aussi capable de générer ça. Et là, c'est comme il y avait une sorte d'impatience, et puis ça avait commencé à se produire, quoi. Et l'État a mis effectivement, après un coup d'accélérateur...
Je n'exclus pas que les décisions allemandes aient été motivées par cette vieille corrélation économique qui veut que quand tu mets des primes et des bonus, tu finis par les retrouver dans les prix à un moment.
Mmh. Ah oui,
et que la guerre des prix s'arrête là où commence le bonus. Mais d'ailleurs, je me posais la question en écoutant cette démonstration croustillante que vous nous faisiez, Lionel Fontanier. Quand on met en place ce leasing social, quel est le lièvre qu'on court ? Le pouvoir d'achat ? Ou la baisse des émissions de gaz à effet de serre, en fait.
Ou la souveraineté aussi.
Parce que
je vous rappelle que le bonus, c'est pas pour les Chinois.
La liste a été actualisée ou dévoilée, je crois, en décembre.
Une mesure, trois objectifs déjà.
Oui, déjà les lièvres. On sait bien que crédit, impôt, compétitivité, emploi, on sait à qui ça a profité et à qui ça n'a pas profité. Vous en pensez quoi?
Non, je pense que j'ai déjà donné la réponse.
Oui. Vous avez donné la réponse de l'économiste. Moi, je me demande celui qui met en place cette politique.
Sur la partie souveraineté, industrie, politique industrielle, etc. Donc, le point qui a été poussé de façon probablement légitime au niveau français, c'est qu'il faut faire très attention au contenu carbone des véhicules produit, c'est-à-dire produire les véhicules électriques, c'est très émetteur de carbone. Donc si vous dépensez 1,5 milliard pour décarboner, mais si en même temps les voitures que vous achetez sont des voitures qui ont été produites avec de l'aluminium qui a été produit en Chine avec du charbon, c'est pas bon. Et je ne parle même pas des batteries. Et donc pour éviter cela, il y a eu effectivement cette disposition qui n'a pas plu beaucoup à nos amis chinois, qui consiste à dire qu'on va prendre plutôt des voitures européennes. Mais néanmoins, si vous regardez la production en France, vous savez que l'année dernière, il y a 140 000 voitures électriques qui ont été vendues en France. Et sur ces 140 000, il y en a 100 000 qui ont été importées.
C'est passionnant ces histoires. Donc oui, il y a eu 50 000 commandes validées. Il y avait 90 000 demandes à la fin janvier. Alors qu'on avait dit 20 000 à 25 000 cette année, pas plus. Bon, c'est quand même un élément supplémentaire qui prouve bien qu'on a un petit problème de budget. Hein. Parce que là... on ne prend pas ce genre de décision comme ça si on a les coups des franges.
Bah, nos amis allemands aussi, puisque ce qui a été évoqué tout de suite, le fait qu'ils ont supprimé, c'est lié à la décision de la cour de Karlsruhe.
On ne badine pas avec les règles en Allemagne, alors qu'en France, normalement, on badine avec les règles. Un petit mot, pas trop long, parce que je voudrais qu'on évoque le match libre-échange et protectionnisme. Là, c'est le grand fantasme, la semaine de 4 jours, Gilbert Sette. En fait, tout le monde y met ce qu'il veut.
Absolument.
Tout le monde y met ce qu'il veut, tout le monde la semaine en 4 jours, la semaine de 4 jours. Chacun va la comprendre à sa sauce. Alors, en fonction de sa vie.
Comme ce qu'il dit tout à l'heure, d'ailleurs, ce dont on parle le plus souvent, c'est la semaine en 4 jours plutôt que la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours est un cas particulier de la semaine en 4 jours. Mais je dirais que l'approche est souvent un petit peu dogmatique en ce terrain-là. Faut surtout laisser les entreprises, les établissements discuter de ça, voir si c'est faisable, voir si les salariés le souhaitent. Parce qu'évidemment, selon les salariés en cause, certains peuvent souhaiter une semaine en 4 jours. D'autres qui veulent aller chercher leurs enfants à la sortie de l'école tous les jours préféreront rester sur la semaine de 5 jours.
Les URSSAF de Picardie ont testé le dispositif. Ils avaient 200 agents éligibles, il y a eu 3 volontaires.
Donc voilà, exactement. Donc il faut surtout laisser la chose au niveau la plus décentralisée être décidée.
Ça, c'est acquis, j'espère.
Mais c'est acquis, semble. Le point qui me paraît important, c'est qu'on est quand même dans une époque où les gains de productivité sont faibles, voire nuls, voire négatifs en France. Donc on a peu de choses pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Comment on peut cependant envisager l'amélioration de leur confort? Ben, c'est vrai qu'il y a des changements comme le télétravail qui peuvent permettre d'améliorer le confort des salariés, confort de vivre des salariés.
Les entreprises en machine arrière.
Oui, mais des entreprises qui étaient passées au tout télétravail. Donc il y a des coups de balancier. On sait maintenant, il y a quand même tout un corpus de travaux auxquels j'ai contribué, mais auxquels beaucoup d'autres ont contribué, qui montrent que l'optimum, c'est entre 1 et 3 jours de télétravail. Oui, c'est d'accord. Pas 5 jours de télétravail. Donc il y a un coup de balancier, c'est tout à fait logique. Néanmoins, on voit que du côté des salariés, quand on les interroge, qu'on leur demande de mettre un prix au télétravail. Combien vous seriez prêt à payer en termes salarial pour continuer à télétravailler? En moyenne, c'est 5%. En moyenne, c'est 5%. C'est-à-dire que les gens seraient prêts à payer 5% de leur salaire pour continuer à télétravailler.
À abandonner 5% de leur salaire.
Absolument. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Une moyenne. Vous voyez, c'est un élément de confort de vie pour pas mal de salariés qui peut aussi être un élément de gain de productivité pour l'entreprise. Et c'est pareil pour la semaine en 4 jours. Il faut que ça se fasse. Ça se décide au niveau local. C'est pas possible pour tous les postes de travail. C'est pas possible partout. L'attente des salariés n'est pas la même dans toutes les entreprises, dans le monde rural, dans le monde parisien, etc., où le coût de l'immobilier est beaucoup plus cher. Donc, voilà, laissons les choses se faire au niveau local.
Moi, il y a quand même quelque chose de très troublant. Très bien, le confort des salariés, mais on voit une hausse de l'absentéisme en même temps, hein, quand même. Donc, c'est que ces formules... Ou alors c'est des paresseux, hein, ce qui est possible, mais que personne ne dira jamais, effectivement. Et c'est des faux arrêts de travail. Moi, j'ai jamais réussi à valider la statistique des arrêts de travail le vendredi. C'est un peu tabou, j'ai l'impression, à l'assurance maladie. Bon, où il y a une vraie souffrance au travail de cette désorganisation du marché du travail avec le télétravail. On ne sait plus très bien quel est le statut, etc. Et je pense qu'on est dans une phase une espèce de phase de transition anthropologique, on va dire, sur le rapport des gens au travail, qui fait que les gens sont un peu paumés, et effectivement, ils ont l'impression de refaire un petit coup de télétravail à 10h du soir, parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant, faut que je termine le truc, j'ai mon vendredi off, mais quand même, j'ai deux réunions au Zoom. C'est, en tout cas, pour les cols blancs, c'est, je pense, extrêmement déstabilisant. Et les cols bleus, je pense que c'est une source de frustration terrible et de division de la société. Donc, globalement, le bilan, pour l'instant, il est pas vraiment positif, puisqu'on a quand même cette baisse de la productivité du travail. Et qui, pour l'instant, est quand même le fondement de la croissance. Après, on peut remettre en cause, effectivement, et le travail et la croissance, mais on n'en est pas là. Donc, ouais, on est dans une période extrêmement perturbée.
Il y a quand même des très bonnes raisons à la baisse de la productivité du travail. Hein.
J'ai un auditeur
Quand on met au travail des gens qui n'y étaient pas auparavant, généralement, les gens qu'on met au travail sont des gens qui sont moins productifs que la moyenne.
C'est le lien entre l'alternance, l'incroyable succès de l'alternance et la
productivité. Oui, mais pas seulement. Si on prend les chiffres qui ont été publiés hier par l'INSEE sur le chômage, on voit stabilité du taux de chômage à 7,5 avec une vision du troisième trimestre. Moi, je crois qu'il faut regarder ces chiffres de façon très positive. Il y a une augmentation du taux d'emploi en France.
Oui, absolument.
Il y a une augmentation du taux d'emploi en France. Et c'est ça ce qui est positif. Cette augmentation du taux d'emploi, encore une fois, elle concerne des gens moins productifs que la moyenne.
Juste, et je vous fais réagir, il y a des réactions. Alors, il y a PLS m'écrit, waouh, le calcul de la tonne de la CO2. Tonne de CO2, c'est pour ça qu'on écoute votre émission.
Il faut l'écrire,
écrit-il. Alors après, la semaine de 4 jours, j'ai des réactions. Il s'appelle Denvelgi, lui, il refuse de s'épuiser. Voilà. Il aura les mêmes objectifs de production, il veut pas s'épuiser au travail. Il y a Domfish qui me dit, il faut arrêter cette semaine de 4 jours, c'est une ânerie monumentale, c'est un signal de plus après la retraite à 60 ans et les 35 heures. Sur le sujet de travail, arrêtons de légitimer cette idée de semaine de 4 jours. Chacun a un avis. Vous avez vu.
Alors, il y a une déclaration très intéressante sur les contrôleurs de la SNCF, là, qu'a fait le Premier ministre.
M'amène à la SNCF.
Je vous fais votre transition. Premier ministre qui, quand même, nous a lancé dans sa déclaration de politique générale, donc la semaine en 4 jours.
Et là, il
explique à nos amis contrôleurs de la SNCF, le travail est un devoir.
On a vu.
Alors, ça sent un peu le retour aux valeurs judéo-chrétiennes. Là, ça y est, on est... travail, c'est pas en option.
Vous connaissez la formule de...
On est tout le temps avec des injonctions contradictoires sur ces sujets.
C'est vrai, la formule d'Yvon Gattaz, hein, tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail. C'est bien trouvé, celle-là. Vous voulez réagir, Lionel Fontanier, allez-y.
Oui, en deux points, alors peut-être pour faire un peu professeur d'économie, parce qu'on est aussi invité pour ça. Donc, ce qu'on enseigne à nos étudiants, c'est qu'il y a le salaire d'un côté et la désutilité du travail de l'autre. Le livre de première année d'économie vous dit ça. Donc, je pense que ça résume quand même. La désutilité du travail peut être plus ou moins grande en fonction du type d'emploi, en fonction de l'organisation de l'entreprise, en fonction du statut dans l'entreprise, de la qualité des relations sociales, etc. Et quand la désutilité du travail monte trop, eh bien, il faut avancer. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Et l'autre partie de la réponse, c'est pour revenir sur mes tonnes de CO2. Le gros avantage d'une semaine en 4 jours, c'est que vous n'allez que 4 fois au bureau. Et donc, le télétravail, c'est la même chose. On dira ce qu'on veut, mais ça conduit quand même à des économies sur nos émissions de carbone qui sont substantielles.
Est-ce que tu me permets là de mettre
Je termine. Par ailleurs, les entreprises elles-mêmes donc voient le nombre de personnes en même temps sur le site de l'entreprise se réduire. En tout cas, au moins pour les cols blancs, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire de cette façon. Et donc, ça permet de réduire les surfaces de bureaux. Donc, c'est aussi une économie de CO2 qui est tout à fait colossale. Je vous rappelle que les émissions liées aux bâtiments sont des émissions très, très importantes au niveau international.
Tout à fait d'accord sur le second point. Sur le premier, un petit bémol. Les gens qui télétravaillent plusieurs jours par semaine sont des gens qui habitent plus loin aussi. C'est-à-dire que le jeune actif qui est à Paris, s'il télétravaille 2-3 jours par semaine, il va en profiter, si j'ose dire, pour se délocaliser et habiter plus loin. Il fera moins de transports, mais des transports plus longs. Alors, en termes d'émissions, comme l'a montré l'ADEME, le bilan est un peu...
Mais non, mais parce qu'il va... Il prend le TGV.
Oui, les bureaux vides, donc ça provoque une crise immobilière, donc il va falloir remettre de l'argent. C'est infini.
Il y a des gens qui habitent à Bordeaux maintenant pour travailler à Paris.
Enfin,
tous les jours.
Voilà.
Hors télétravail.
Et donc, on a des billets de TGV à des prix insensés, donc on rogne sur le pouvoir d'achat. Enfin, c'est le truc, c'est là où on voit que le marché du travail, c'est vraiment le sang, le cœur de tout, c'est que ça provoque effectivement cette mutation qui est en cours, encore une fois. Ça provoque toutes sortes de... C'est comme s'il y avait une sorte de tsunami avec des répercussions multiples sur l'économie. Et on ne sait pas très bien où on va aller encore. Parce qu'on
à ce point, Nicolas est désespéré. Il dit, je ne tiens plus du tout mon
émission. Non, mais moi, cette année, il y a deux jours, on a fait une émission complètement désorganisée et c'était assez sympa. Bon, pas tous les jours. J'adore quand le truc part en vrille. Regardez, on a commencé l'émission
mais à regardez, faire un quart d'heure sur un truc qui était même nous, pas... on a fait un papier dans le dernier numéro de Challenge sur Sodexo, donc les cantines au boulot, là.
Ah bah oui,
c'est
oui.
Catastrophique.
Ah bah allez parler aux commerçants de l'Esplanade de la Défense.
Donc, si vous voulez... voilà, alors après, vous allez parler, effectivement, au type qui a un restaurant à 100 km de Paris. Lui, il va être content puisqu'il voit arriver des clients dès le jeudi après-midi. Enfin, les répercussions, elles sont vraiment... très importante, et c'est déjà parti. Le sondage qu'on avait fait ensemble était très frappant, quand même. Près d'un tiers des gens considèrent qu'ils pratiquent déjà la semaine de 4 jours d'une façon ou d'une autre. On est, et 77% y sont bien sûr favorables. Avec toujours, alors on avait bien précisé dans la question.
9h en 4
voilà,
jours,
voilà,
par jour, au lieu de 7h en 5 jours,
par jour. Oui, tout voilà. À fait.
Vous avez vu le enfin, c'est un fait divers, mais SAP qui était passé au 100% télétravail. Le patron a tapé du poing sur la table, a dit, mais non, je suis désolé.
Comme tous les grands Américains.
Maintenant, ça va être 3 jours max en télétravail. C'est terminé le 100% télétravail. Eh bien, il y a une pétition de plusieurs milliers de salariés qui menacent de démission collective si on leur impose de revenir au travail, au bureau. Mais là, c'est pas un gars qui dit, non, je suis pas d'accord. Je crois qu'ils sont 1500 à mettre en jeu le fait de démissionner. C'est un nouveau sujet de conflit. On a 7 minutes. Il y a eu des quantités d'éléments assez passionnants, complexes à trancher, Lionel Fontanier, sur ce match libre-échange-protectionnisme. On s'est bien rendu compte que la politique de Joe Biden, c'est pas une politique ultralibérale. C'est évidemment une politique de protectionnisme qui passe pas par les droits de douane, mais qui passe par les normes. On a vu que le rejet du libre-échange a été l'un des points centraux de la crise agricole. Et on a érigé le Mercosur comme l'élément à abattre absolu. On a eu là, tout récemment, une mobilisation au niveau européen des producteurs européens de panneaux solaires qui disent « Faut absolument bloquer les panneaux solaires qui viennent de Chine, on va crever. » Tous ces gens, ils ont des bonnes raisons. Et là, il va se tenir la conférence ministérielle de l'OMC du 26 au 29 février à Abu Dhabi. Mais soumis cette idée parmi les sujets du jour, je me suis dit que ça m'intéressait de vous entendre sur cette thématique. On a 6 minutes.
C'est largement pour parler de ce qui va sortir de cette conférence. La conférence précédente était à Genève, comme vous vous rappelez peut-être, en 2022.
Je m'en souviens.
Ah, ça ne vous a pas échappé. Et donc, cette conférence avait été marquée par un accord très important, qui est l'accord sur les pêcheries, l'accord sur les subventions à la pêche, qui est le cheval de bataille de la directrice générale Ngozi. Donc c'est vraiment le marqueur de son mandat, c'est cet accord. Et donc, ce que vous savez aussi, évidemment, c'est que pour qu'un accord signé dans une ministérielle prenne effet, il faut qu'ensuite, chacun des pays signataires, chacun des pays membres, envoie un document à Genève expliquant comment cet accord va être mis effectivement en place. Et donc, quand 2/3 des pays membres ont envoyé ce document, l'accord commence, mais mis en application. Et pour l'instant... On a fait ça en 2022. On n'a pas reçu tous les documents. Loin de là, on a reçu la moitié des documents qui seraient nécessaires. C'est-à-dire la moitié des 2/3, etc. C'est-à-dire 1/3. Et donc les 2 derniers pays, pour la petite histoire, qui ont signé, c'est le Cap-Vert et le Royaume-Uni. Mais on est encore très très loin du compte. Et donc, on pousse à Genève pour faire aboutir cet élément qui est... un élément central et très important, objectivement, du mandat Ngozi. Et on a même organisé, alors ça peut paraître peut-être un peu ridicule vu d'ici, mais on a organisé le mois du poisson. Et donc, c'était le mois du poisson où on téléphonait aux différentes chancelleries pour leur dire, ben là, il faudrait peut-être quand même signer. Voilà. Alors ça, c'est un des éléments. L'autre élément qui est important pour cette future ministérielle à Abu Dhabi, c'est la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Donc là aussi, en 2022, on avait dit, ben voilà, on va lancer des travaux, on va faire un audit, voir ce qu'on pourrait faire, etc. Et évidemment, il n'y a pas du tout d'accord sur quoi que ce soit, donc il ne sortira rien. Et puis enfin, on va avoir des discussions générales sur commerce et environnement entre les représentants des différentes délégations. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, c'est les subventions dans l'industrie. C'est le retour de la politique industrielle, c'est le retour du protectionnisme à des fins industrielles. Quelquefois, pour des bonnes raisons. L'autonomie stratégique ouverte, comme on dit à Bruxelles, c'est évidemment quelque chose qui est nécessaire dans le contexte. Mais ces subventions désorganisent le marché mondial, créent des problèmes de concurrence au niveau international, et il faut trouver une façon de s'en sortir. Parce que très souvent, c'est pour des raisons stratégiques, donc là, on ne peut pas en discuter, mais c'est aussi pour des raisons environnementales. En tout cas, l'IRA, donc l'ensemble des dispositions qui a été adoptées aux États-Unis, a un élément central qui est une clause d'intégration locale. Et la clause d'intégration locale, pour faire vite, c'est que les crédits d'impôt que vous pouvez obtenir aux États-Unis, hein, on parle de 400 milliards de dollars, hein, c'est quand même beaucoup, mais les crédits d'impôt que vous pouvez obtenir sont conditionnés au fait que vous produisez une grande partie de la valeur ajoutée directement aux États-Unis. Évidemment, les Européens ne sont pas très contents. Ils disent, et nous, si on veut exporter quelque chose aux États-Unis, ça ne va pas marcher. Donc il y a un groupe de haut niveau qui a été créé entre la Commission européenne et l'administration américaine pour essayer de trouver des solutions. Sur le leasing des voitures électriques aux États-Unis, on a trouvé une solution, c'est-à-dire que les voitures européennes seront éligibles aux mesures qui existent là-bas. Mais enfin, ça n'est pas tout. Donc ce sujet central qui est comment peut-on s'entendre sur des limites à mettre aux subventions à notre industrie, c'est un sujet qui ne va pas être traité et c'est le sujet central que l'on aurait dû traiter, notamment pour les pays en voie de développement. J'ai terminé, parce que les pays en voie de développement, je ne parle pas de la Chine ni de l'Inde, mais les pays en voie de développement n'ont pas les moyens de soutenir leur industrie dans la même façon. Et donc, ils vont passer à côté de toutes ces nouvelles industries, les panneaux solaires, les éoliennes et beaucoup d'autres.
En fait, il y a un seul... Moi, ce qui avait frappé à Davos, mais pas seulement cette année, mais depuis plusieurs années, il y a un seul pays qui est vraiment l'apôtre de la mondialisation, de ce qui fonde effectivement, l'enrichissement global par l'accélération du commerce international, qui est quand même le fondement de l'OMC, qui a été créé après-guerre sur cette idée que le commerce, c'est la paix, c'est la Chine. La Chine, tout le discours de la Chine, c'est le multilatéralisme, etc. Mais les autres pays c'est quelque chose, c'est un repoussoir à opinion publique horrible. L'OMC, c'est considéré comme un truc, des espèces de suppôts. Donc, c'est juste impossible de faire quelque chose. Donc, après, il y a ce que Guarachas au FMI appelle, et il n'aime pas du tout ce concept, mais c'est une sorte de fragmentation. C'est le commerce entre amis, avec des groupes de pays qui arrivent à s'entendre entre eux. Mais l'idée qui portait l'OMC, pour moi, vous l'avez décrit avec... de façon à la fois sérieuse et un peu pas sans rire, c'est un non-événement. Moi, je vais pas faire une ligne sur la conférence ministérielle.
On fera, quand vous reviendrez, on fera le débat. Il reste 47 secondes. Moi, j'ai deux trucs tout bêtes. J'ai le sentiment que depuis son entrée dans l'OMC, la Chine n'en a pas respecté les règles. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui est complètement démonétisée. Notamment après la période où Trump a volontairement et sciemment bloqué le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends. Et je me dis que ce que l'OMC peut encore faire.
Il arrive que des organisations en mort cérébrale se réveillent.
Ah, pas mal.
Pensez à l'OTAN.
Voilà.
Bah tiens, on devait en parler. Voilà. On aura pas...
La Chine, lors de son entrée à l'OMC, a fait énormément, a libéralisé énormément son économie. Oui. Mais le problème, c'est qu'on avait anticipé que la Chine irait vers une économie de marché. Et la Chine est allée exactement dans l'autre sens. Oui.
Merci à vous. On n'a pas le temps de tout évoquer. Et notamment, justement, l'aspect économique de ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'OTAN. Travailleurs mais pauvres, inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse de Buck.
C'est moins de 22 euros.
Pour moi,
DBS. Ça.
Voilà, DBS. Moins de 22 euros. De Buck. C'est Gilles Berset, donc, qui publie qui publie cet ouvrage. Merci Lionel Fontanier. Revenez avec votre calculatrice, c'est passionnant. Pierre-Henri de Menton, les directions de Challenge, avec à la une l'IA qui perd, qui gagne, c'est à compter d'aujourd'hui dans tous les kiosques qui se respectent. On se retrouve demain à 9h.